Radio FM Plus.
FM Plus.
Il est 10h10 sur Radio FM Plus, c'est le 10-10. Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour à tous, chers auditeurices, ici Léonie et bienvenue dans notre grand entretien de matinale. Une fois par mois, nous avons la chance d'accueillir Audrey de l'association GAM, qui représente au sein de la radio les ressourceries, RK, Artex, la gaminerie et la boutique. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue toute seule. Nous sommes également avec Pascal Pignon, conseillère en insertion socio-professionnelle. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment vous allez ?
Très bien.
Aujourd'hui, j'ai la chance de co-animer l'émission avec la jolie Lina et le superbe Evan. Comment vous allez ?
Ça va super.
On commence bien la journée et la première question, ce sera pour Pascal. Est-ce que tu es prête ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu pourrais un peu te présenter aux auditorices ?
Oui, donc Pascal Pignon, j'ai 60 ans. Je travaille depuis 33 ans à GAM. Et avant, j'ai fait de l'animation, j'avais commencé par un BAFA, j'ai fait de l'animation et ensuite je me suis formée comme monitrice éducatrice, après éducatrice spécialisée. Et c'est quand j'ai été éducatrice spécialisée, j'avais travaillé avec des publics divers et variés, en ESAT, en MEX, en IME, en CHRS. Et ensuite, je suis rentrée à GAM en 93.
Ok.
Et voilà, et puis durant cet emploi de 33 années, j'ai aussi fait un CAP de fleuriste et j'ai aussi fait un master intermédiation et développement social.
Et donc t'as beaucoup de formation, c'est pas...
J'ai beaucoup de formation, mais il fallait bien remplir les 33 années.
C'est vrai que tourner en boucle parfois ça peut être un peu long. J'avais une question qui me trottait un peu dans la tête depuis qu'on travaille avec Audrey. C'est pour le suivi de l'insertion socio-professionnelle. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique ? Est-ce que c'est toi qui t'en charges, s'il y en a un ?
Alors, pas du tout. Moi, je ne suis pas psychologue, ni clinicienne, ni praticienne. Donc, après, on fait des orientations vers des partenaires qui sont spécialisés sur l'accompagnement psy. Mais nous, on a plutôt une écoute active pour essayer de comprendre les besoins, les diagnostiquer et voir précisément vers qui il faut orienter.
Ok. Je vais laisser la parole à mes camarades pour ne pas monopoliser toute l'émission.
Moi, j'avais une question du coup sur l'insertion professionnelle. C'est quel public accompagnez-vous et comment adaptez-vous votre accompagnement à votre besoin spécifique ?
Ok. donc, les publics, c'est des demandeurs d'emploi de longue durée, principalement. Après, ils ont des particularités. C'est qu'il y a 80% de notre public qui doit être bénéficiaire du RSA. Et les 20 autres, c'est des personnes, 20 autres pourcents, c'est donc des personnes qui sont en ASS, travailleurs handicapés, moins de 25 ans, résidents QPV, en parcours de rue, issus de l'ASE, des demandeurs d'emploi de plus de 24 mois et des personnes en hébergement temporaire. Voilà, donc ça représente les 20 autres pourcents. L'autre question, tu veux bien m'aider ?
C'était comment adaptez-vous votre accompagnement à votre besoin spécifique ?
Par rapport à leurs besoins à eux.
Oui.
D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, tout démarre, l'accompagnement, il va déjà démarrer lors du premier rendez-vous, où on va faire une évaluation pointue au niveau socio-pro. Et on va essayer déjà de lister les points qui vont être nécessaires dans l'accompagnement, c'est-à-dire les freins que la personne rencontre et du coup les points qu'on va devoir développer en termes d'accompagnement. Ça peut être des problématiques de santé, des problématiques de logement, d'isolement, de formation aussi, parce que parfois des gens n'ont pas accès à la langue Mais bon, pour nous, il faut déjà au moins qu'ils maîtrisent un travail d'oralité, enfin, qu'il y ait un travail d'oralité. Donc, tout le travail va démarrer au premier entretien et ensuite va se construire au fil des rencontres. Parce que chaque fois que les personnes travaillent chez nous, ils ont un accompagnement en parallèle du travail, sur le temps de travail. Donc, on les reçoit une fréquence de, on va dire, donc les rendez-vous, c'est une fois par semaine. Après, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont autonomes et qui vont pouvoir faire des démarches aussi seules. Et donc, on ne va pas les voir toutes les semaines, mais on va se donner un peu des objectifs à réaliser.
D'accord.
Lina, est-ce que tu veux continuer ?
Oui. Alors moi, j'avais une petite question. Comment arrivez-vous à redonner confiance à des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis très longtemps ?
Ça, c'est une bonne question.
Elle est super, Lina.
Ouais. Alors, donc, déjà, la mise en situation professionnelle est très importante parce que à partir du... Déjà, dès l'accueil, on va les mettre en confiance, on va les être dans une réassurance... pour qu'ils prennent de façon confortable leur poste de travail. Ça, c'est le travail de mes collègues, dont l'équipe d'encadrants techniques, qui ont, au fil des années, développé des facilités dans cet accompagnement. Et puis, ils vont aussi repérer les fragilités des personnes et voir comment ce sera plus facile pour accompagner la personne selon qu'elle est, par exemple, par le... pas bien le français, du coup, ils ne vont pas la confronter à un travail, enfin, une lecture de documents. Donc, tout va passer par l'oralité dans ce cas. Donc, ils vont adapter déjà l'accompagnement dès le départ. Et ensuite, au fil des rencontres individuelles, alors là, je vous ai parlé du temps collectif, mais ensuite, il y a le temps individuel où des fois, l'encadrant va prendre la personne dans le bureau pour dire des choses en aparté, des choses qui, par exemple, sur les retards, sur les absences, essayer de comprendre ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Et ensuite, ça va être repris avec le conseiller en insertion socio-pro pour voir s'il faut aider dans la résolution de difficultés, c'est-à-dire s'il y a des retards, s'il y a des absences, s'il y a toute autre difficulté de communication, essayer de comprendre là où ça coince. Donc, on va être en permanence à l'écoute de ces personnes et individualiser surtout l'action. Je voudrais aussi rappeler que depuis l'arrivée d'Audrey, il faut quand même que j'en parle. Audrey, elle a un rôle essentiel autour de la sensibilisation sur les activités des ressourceries, c'est-à-dire la consommation responsable, la gestion des déchets. Et en fait devenir un acteur, un citoyen responsable, on va dire, on a mis en place aussi des animations de sensibilisation sur leur emploi où nos salariés deviennent des ambassadeurs de la ressourcerie, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur rôle de salarié pour tenir un rôle d'animateur à des moments... construit avec nous, bien sûr, hein, c'est pas fait n'importe comment. Et là, ils expliquent ce que font les ressourceries, ils donnent envie de faire aux personnes du remploi. Et donc, ils animent des petits ateliers comme ça. Et par le biais de ces ateliers de sensibilisation, entre autres, aussi, on voit les personnes évoluer, c'est-à-dire qu'on les prend du côté de l'individu et non plus du salarié. Donc, qu'est-ce que l'individu met à disposition de ce moment qu'on partage avec du public, parfois ses enfants, ses adultes, met à disposition pour se faire comprendre et aussi partager leurs talents. Parce que souvent, même s'ils ont été en difficulté, il y en a beaucoup qui ont des talents. Des compétences professionnelles, mais qui ne sont pas reconnues sur le système français parce qu'ils n'ont pas de qualification. Mais en tout cas, nous, on les découvre au sein de l'atelier. Notre travail, c'est de faire émerger ça et de capter aussi comment on va pouvoir le travailler avec la personne. Donc, c'est vraiment du travail individualisé. Et aussi, je voulais parler de partenaires avec qui on travaille, par exemple, avec Facero, qui mènent des actions autour de la lutte contre l'accès au numérique, enfin, c'est-à-dire que permettre que tout un chacun puisse avoir un ordinateur. Donc ça va être mon travail d'inscrire des personnes sur des actions comme ça pour rompre aussi avec un isolement là, avec à propos du numérique, mais que les personnes puissent aussi s'émanciper, faire des démarches seules, devenir autonomes. Aussi, il y a l'action avec la Pige là, qu'on a lancée en 2025, Vélo Ego, où les personnes vont apprendre à faire du vélo. Donc en fait, on essaie de, en même temps qu'on conduit le chantier d'insertion, on essaie de voir en parallèle ce qui pourrait être approprié pour nos publics, pour les émanciper, pour les rendre autonomes, pour leur donner une vraie place de citoyen aussi, et qu'après eux, ils puissent en mesurer le bénéfice, l'utilité, et que ça leur serve dans leur vie personnelle, mais aussi à leur tour être des transmetteurs pour leur famille, pour leurs amis, etc.
Mais justement, ce métier, ça a l'air d'être un métier très humain et tu as l'air quand même passionnée par ça. Enfin, je l'espère, sinon tu mens très bien.
Elle est passionnée.
ça se ressent. Mais comment tu fais pour réussir à garder une certaine distance professionnelle avec ceux que tu accompagnes? Est-ce que tu y arrives?
Il y a des moments qui sont très, très compliqués, mais on a des temps de travail collectif aussi avec mes collègues, les conseillers en insertion professionnelle, j'allais dire CIP. Donc, on parle de situations qui nous posent problème. On parle aussi en équipe des situations qui posent problème et pour qui c'est difficile ou ça peut paraître difficile. Donc, chacun parle de ça. Mais après, je crois qu'il faut avoir une vie à côté aussi. Il n'y a pas que le travail et c'est la vie à côté qui fait qu'on s'épanouit. C'est aussi pour ça que j'ai fait d'autres choses dans ma
carrière. Oui, c'est ce que j'allais dire, fleuriste. On va un peu te laisser tranquille et laisser la parole, enfin, ce qui reste de parole à Audrey, parce qu'elle est un peu malade. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau dans les ressourceries depuis la dernière fois, faire un petit topo pour le public, les auditeuristes, etc.
Du nouveau, là, en fait, on met... il y a des braderies qui se font en ce moment à la Gaminerie, également à Artex. RK, on renouvelle très régulièrement le magasin puisqu'on a beaucoup de dons et on est vraiment sur une dynamique de renouveler au maximum les propositions pour la clientèle. Et à partir du mois de mars, on va aussi renouveler une opération à RK qui est faite en partenariat avec InfoLibre 34, qui est une association qui récupère nos ordinateurs qui jusque-là n'étaient pas valorisés. Qui les remet à zéro, donc qui efface toutes les données personnelles, qui remet les logiciels à zéro et qui travaille en logiciel libre. C'est un souhait de ces personnes. Et donc, va venir faire une permanence le premier, une fois par trimestre, le deuxième vendredi du mois. Je communiquerai aussi sur les réseaux, là, je n'ai plus les dates exactes. Donc, pour proposer des ordinateurs à moindre coût à nos clients. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que c'est vrai que l'informatique était difficilement valorisable chez nous parce qu'on n'avait pas les compétences nécessaires pour le faire. Donc, on est ravis de ce partenariat. De toute façon, après, au printemps, bientôt, on va avoir la nouvelle collection des vêtements.
Ah, hâte.
Voilà, donc là, on va aussi suivre la saisonnalité. Il y a toujours des choses dans les tiroirs après. Donc, faut nous suivre régulièrement et...
Oui, mais depuis la dernière fois qu'on a amené notre programmateur, justement, la personne qui met les musiques, notre cher Stéphane, depuis toutes les semaines, il fait « Vous voulez aller à RK ?» Et du coup, il y va tout seul, mais...
Oui, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, d'accord.
Toutes les semaines, quasiment, s'il pouvait y aller toujours, il le ferait.
Ouais. Après, voilà, oui, on renouvelle les DVD, CD, puisqu'on a énormément de stock. Voilà, on essaye de faire un petit peu de tri aussi chez nous. Et du coup, voilà.
Mais s'il y a des fans de vinyle, de cinéma, de tout ça, vous allez trouver votre bonheur à RK.
Et oui, hier, si, quand même, une petite nouveauté. On a été sollicité pour la réalisation d'un tournage. Parce qu'à côté, dans la rue du Lantissargue, il y a le tiers-lieu Restank. ou qui héberge un atelier de danse. Et ils sont venus nous voir pour faire un tournage au sein de nos locaux. Donc là, ils l'ont fait hier. Et je n'ai pas pu y assister, mais en tout cas, on aura la vidéo qu'on pourra partager aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a des petites choses. On est assez identifiés quand même aujourd'hui. Et on a des propositions assez diverses et variées. Donc c'est assez sympa.
Est-ce que mes chers co-animateurs, vous voulez poser une question à Audrey avant la petite pause musicale ?
Allez, alors moi j'en ai une. Y a-t-il des objets que vous avez refusé de vendre par éthique, même s'ils pourraient rapporter de l'argent ?
Alors oui, on est obligé de toute façon de refuser. Bon, déjà, on ne vend pas tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est dans le cadre légal, on n'a pas le droit. Après, oui, on a reçu des dons... qu'on ne peut pas mettre à la vente. On a eu des choses de la Seconde Guerre mondiale, notamment. voilà, donc après, nous, on ne le fait pas. Après, c'est pour des collectionneurs, mais dans des musées. Voilà, après, oui, par éthique, on peut faire du tri sur certains livres, effectivement. Mais oui. Bon, après, il faut vraiment que ça soit les t-shirts.
Il y a aussi les t-shirts qui ont des logos.
Oui. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on a des fois des t-shirts avec estampillés sapeurs-pompiers, ambulanciers ou ça nous arrive même police. Bon, voilà, ces choses-là, on ne les vend pas parce qu'en fait, il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains.
Oui, mais on les réemploie.
Mais on les réemploie, oui, pour faire des sacs t-shirts.
Ah, super.
Ça, c'est cool.
Ah, ouais. Voilà. Donc, oui, il y a des choses effectivement qu'on ne peut pas vendre en ressourcerie. Voilà. Et aussi, après, tout ce qui est produit un peu... Notamment, mes collègues de la gaminerie font très attention par rapport à tout ce qui est jeux et jouets pour enfants sur certains matériaux qui avant étaient vendus, qui ne peuvent plus être vendus aujourd'hui. Donc, il faut quand même avoir une certaine veille sur les objets qu'on vend.
Oui, pour la sécurité et le bonheur de tous, finalement.
Exactement. Oui.
Pascal a prévu une petite musique pour nous laisser souffler, continuer cette interview. Est-ce que tu pourrais l'introduire ?
Ben, parce que nous sommes tous des citoyennes du monde, je propose qu'on écoute Raphaël Schengen.
Merci beaucoup et merci Aurélien pour cette technique.
Je suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. De nuit sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. C'est pas la croix, pas la manière. Depuis la terre, on y revient. Moi j'ai un orgue de barbarie et je vais pourrir leur pays. C'est pas avec la bombe atomique. C'est pas avec les tours de France. Ils me mettront de leur côté quand j'aurai fini ma croissance. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Thank you.
Et nous revoilà. Et merci pour cette découverte musicale, Pascal. C'est très agréable et je pense que c'est bien dans le thème.
Avec plaisir.
Et oui. Maintenant, je vais un peu passer la main à mon cher Evan. Et c'est lui qui va continuer l'interrogatoire.
Moi, j'avais une question. C'est quelles difficultés aujourd'hui peuvent rencontrer les ressourceries?
Alors, il y en a plusieurs. Alors, il y en a déjà sur le plan purement financier, la pérennité de certaines structures qui, notamment là, quand on est. Il y a des ressourceries qui sont chantiers d'insertion, d'autres qui ne le sont pas. Mais pour celles qui sont en chantier d'insertion, on est quand même dépendant des subventions publiques qui ont baissé. Hein, toutes les subventions pour les associations ont baissé, donc ont mis en difficulté beaucoup de structures. Donc, certaines vont trouver d'autres ressources. Mais des petites qui s'ouvrent, voilà, il y en a certaines qui ont dû fermer ou alors fermer certaines activités. Et après, il y a aussi des difficultés en termes de, d'espace, puisque les ressourceries ont besoin de locaux et c'est un peu toujours compliqué pour trouver des espaces disponibles. Et aussi, en termes financiers, ça coûte de l'argent. Et après, il y a aussi l'afflux de dons en grosse quantité, difficile à traiter. Notamment, j'en ai souvent parlé ici, mais c'est le textile qui arrive en quantité gigantesque.
Justement, je crois que Lina, elle avait une question sur...
Le textile, oui.
Oui, sur les tonnes de textile, ouais.
Combien il y avait de tonnes de textile qui transitent par mois
environ. Alors là, la question chiffre, je suis toujours... les tonnes, je peux pas. En tout cas, ce que je peux te dire,
énormément.
C'est que, on a sur un mois, on a un semi-remorque qui part de textile qui a été trié, qui ne peut pas être valorisé. Donc semi-remorque. Après, je préparerai des chiffres la prochaine fois.
Et on va pas. C'est toujours les questions. Sur ça, du coup.
J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Je suis désolée.
Il n'y a pas de souci.
Par contre, voilà, en termes de quantité, on a le textile. Après, on a aussi beaucoup de. En fait, tous les flux sont. On a beaucoup de choses parce que les gens consomment quand même beaucoup. Alors, la démarche du réemploi, hein, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, ça interroge toujours sur la consommation et la production aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est les difficultés, la gestion des flux, parce que nous, on est aussi dépendant des éco-organismes qui viennent nous enlever les bennes, mais qui sont sollicités par X structures. Donc, notamment sur le textile, on travaille avec le relais, mais qui ne viennent plus le collecter parce qu'ils sont en surcharge. Pour l'instant, on a encore un exutoire, mais... Ça nous a quand même mis en difficulté. Donc, on était limite à devoir refuser le textile. On a pu l'absorber. Mais j'ai des collègues qui ont dû refuser le textile. Et c'est aussi une manière de militer pour montrer que, voilà, nous, on est là. Mais derrière, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient faites sur la production parce qu'à un moment donné, ça va coincer, quoi.
Est-ce que Pascal et Audrey, vous travaillez toutes les deux à GAM? Dans l'association
oui,
GAM.
Bien sûr.
Et vous êtes rencontrés comment la première fois?
Pendant un copil. Comité de pilotage.
Un comité de pilotage. On a présenté ce qu'avait réalisé la structure Artex. Et du coup, Audrey était invitée. Et puis, comme on avait monté le projet justement Échangeons pour changer, Audrey, elle venait. Sur ce volet-là, en fait, en tant qu'animatrice éco-animatrice. Et du coup, on a travaillé très vite ensemble sur cette préparation. Et il y a une belle énergie, vraiment, il y a une belle énergie. Et Audrey, elle arrive aussi à bien motiver les troupes. Et les gens, suivent facilement. C'est-à-dire que aussi on demande aux gens de venir travailler parfois le week-end et ils sont quand même partie prenante parce que vraiment c'est presque une communauté quand même appartenir à GAM. J'ai envie de dire c'est une communauté et faire ça autour de la sensibilisation c'est vraiment prendre un rôle différent que celui de salarié et un rôle pour l'humanité en fait. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si tout le temps les gens se rendent compte de ce qu'ils se jouent, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand ils partent de chez nous, eh bien, y a toujours un pincement au cœur et ils disent que plus jamais ils resteront à la maison.
ça fait du bien de se sentir utile d'aider les autres. Je
Exactement. Que c'est l'une des meilleures manières de travailler, et c'est ce que vous faites toutes les deux.
Et
ça, c'est génial.
Et donc là, dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'intéressant sur la notion de travail, et surtout en ce qui concerne les femmes, parce que nous, on a des publics que souvent les femmes sont restées à la maison pour élever leurs enfants. Mmh. Et du coup, elles viennent prendre un rôle là d'utilité, mais plutôt sociale, c'est-à-dire que là, du coup, elles sortent de leur rôle d'utilité domestique. Mmh. Et là, elles viennent sur la sphère sociale en disant « maintenant, je sers à quelque chose ». Et en plus, dans les ressourceries, notre travail, il a un impact au-delà de nous et au-delà de l'entreprise.
Est-ce qu'il va y avoir des changements à venir dans l'association GAM qu'on devrait connaître, ou ça va ? Tout va bien pour les associations en ce moment ?
Alors, tout va bien, c'est un gros mot. Nous, en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que l'énergie des équipes au sein de notre pôle est toujours la même. Les difficultés financières qu'on a pu avoir, ça peut nous impacter, mais c'est vrai qu'on arrive, en lien aussi avec notre directrice, à s'adapter, se reposer, se remettre en question aussi, vouloir développer des nouvelles choses. Donc, c'est vrai que on va devoir repenser certaines choses, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, l'énergie est intacte, l'envie aussi, et puis la motivation pour les salariés qu'on accompagne. Donc on a toujours des nouveaux projets. Après, c'est toujours difficile quand tu me demandes ce qu'on fait de nouveau, parce qu'il y a des choses nouvelles un peu tout le temps. Mais c'est vrai qu'aussi, ça va.
On peut dire qu'on se renouvelle dans le mieux.
Oui.
Et qu'on s'adapte aussi à des contextes. Là, un contexte économique. Et c'est vrai que on a de moins en moins d'aide. Donc, il faut qu'on fasse nos preuves aussi là-dessus.
Économique. Et puis après aussi, par rapport aux dons qu'on peut avoir, les difficultés liées au flux des ressourceries. On s'adapte. En fait, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on s'adapte tout le temps. Donc, il n'y a pas de routine. Ça, qui est chouette.
C'est chouette.
Voilà. Et je veux rebondir sur l'animation, parce que moi, je suis arrivée il y a 5 ans. J'ai bientôt mon 5e anniversaire au sein de GAM. j'étais embauchée donc, sur ce volet sensibilisation. Mais je vous tiens quand même à dire que mes collègues faisaient déjà pas mal de choses à ce niveau-là. C'est juste qu'en fait, il fallait une personne pour développer cette sensibilisation. Pascal est quand même une personne qui est force de proposition sur chaque projet et est toujours partie prenante, et c'est très agréable. Elle a beaucoup d'idées. Des fois, je suis obligée de la canaliser un petit peu. Mais c'est très agréable d'être avec des personnes comme elle. Et elle est très curieuse. Et franchement, elle transmet ça aussi aux salariés.
Que là, en 20 minutes, on le ressent. Oui. Alors, j'imagine au quotidien, ça va être vraiment extraordinaire. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Est-ce que je pourrais avoir la parole de mes chers co-animateurs pour essayer de poser des questions que je n'ai pas forcément posées ?
Moi, j'avais une question. C'était, est-ce que tout le monde peut-il prétendre à ouvrir une ressourcerie ou pas ?
Oui. Alors, tout le monde peut ouvrir une ressourcerie. Donc, on a un réseau national qui propose des formations lancer un projet de ressourcerie. Bon, après, c'est des formations payantes, bien sûr. Mais il y a tout un réseau pour accompagner les projets de ressourcerie. Après, ça peut être soit en indépendance, soit après aussi avec des collectivités, à la demande d'une collectivité, donc via des appels à projets de ressourcerie. Nous, on a un modèle ici qui a été à Cœur d'Hérault, c'est notre ressourcerie Cœur d'Hérault, à Saint-André-de-Saint-Gonis, qui émane d'une demande du syndicat Centre-Hérault, donc auquel on a répondu, qui marche très bien, et le syndicat accompagne énormément la ressourcerie aussi sur tout ce qui est sensibilisation. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est des projets qui sont quand même longs pour que ça fonctionne. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais je trouve que c'est des projets merveilleux.
Voilà. Alors, je voulais apporter une petite précision dans la question là qui est posée, parce que là, c'est l'axe ressourcerie, et nous, à GAM, les chantiers d'insertion dont sont couplés avec la ressourcerie. Donc, on ne peut pas ouvrir un chantier d'insertion comme ça aussi facilement qu'une ressourcerie, parce que là, par contre, il faut passer en commission départementale d'insertion. Voilà.
Ok. Bah, merci de rebondir dessus. Est-ce que Lina, tu peux dire la dernière question avant qu'on se
Allez,
quitte.
Pour terminer, moi, c'est si Artext était un seul objet de la boutique en ce moment, lequel serait-il pour vous décrire en un petit objet?
Donc juste l'Artex, Cartex.
Le gamme, on peut rentrer dans tout en globalité.
Comment vous décrire en un objet que quelqu'un donne pour que ce soit
non, c'est une question sympa, difficile. Ouais, c'est chouette.
J'aurais dû laisser faire l'interview toute seule.
Je sais. Oui, il y a la question du temps, oui, parce que nous, on a besoin de temps pour l'accompagnement, on a besoin de temps parce que pour toutes nos activités, parce qu'on est partout à la fois. Mmh. Après, moi, j'ai envie de dire un livre parce que notamment tout ce qui est le code de l'action sociale, parce que ben voilà, il faut toujours se plonger, actualiser nos connaissances parce qu'il y a des réformes. Parce que ben voilà, les lois le changent et qu'il faut toujours s'adapter et composer et informer après nos publics. Voilà, on est souvent des personnes aussi ressources.
Voilà, mais c'est beau, hein.
C'est, ouais, c'est bien
poète. Hein. Et toi, Audrey, du coup?
Oui, ben moi j'avais pensé à une horloge, effectivement l'accompagnement et puis aussi le temps qui
passe.
Le temps qui passe. L'urgence écologique aussi, et puis le fait que ça soit un cercle, tout ce qui est économie circulaire, oui. Voilà, avec
ouais, c'est
les trois aiguilles qui se complètent aussi, voilà, tout ça.
Quoi. Sur cette réponse pas du tout anxiogène.
Mais j'ai toujours un petit, c'est un peu ma touche, quoi.
Nous arrivons à la fin de cet entretien, et c'était un véritable plaisir de passer avec vous tous.
Nous aussi.
Merci.
On recite les noms. C'était Pascal, Audrey, Lina, Evan, Léonie et Aurélien à la technique. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à nos auditoristes de nous écouter. Et n'hésitez pas à dire à Audrey ou à Pascal que vous venez grâce à la radio. Ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt sur nos ondes. Et avant de vous laisser, je vous propose d'écouter une nouvelle chanson. Qui vient juste de sortir, qui se nomme « Le vent me porte » de Mathilde Bonamy et de Mona Zanchi. Et merci Aurélien pour cet accompagnement de qualité. Au revoir.
Au revoir, merci. Thank you.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.